Voilà. Alors, je vais demander à Nicolas de mettre en route. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours d'hébreu. Non, c'est pas l'objet. Ça marche là, maintenant? Oui. Mais avant de commencer, quand même, je voulais vous montrer le nom de Dieu. Donc, ici, voilà le nom de Dieu, ce nom imprononçable, les quatre lettres. Hein, et en hébreu, ça se lit dans ce sens-là. Voilà, de la droite vers la gauche. Alors, la première lettre que vous voyez ici, c'est un yod. Hein, c'est la plus petite lettre. La parole nous dit qu'il ne faut pas retirer un seul yod de la parole, hein, de l'écriture. Et le yod, un yod, c'est une main. Alors, vous imaginez la main, et vous voyez cette main, elle ne touche pas par terre. Elle représente la main de Dieu. La main du Père qui dit, allez, c'est par là le chemin. Et la deuxième lettre que vous voyez là, ça ressemble à un H. C'est un hé, hé, comme ça. C'est un souffle. Et le souffle, c'est le Saint-Esprit. Donc, dans le nom de Dieu, il y a le Père, le Saint-Esprit, et puis, regardez, c'est comme si la main de Dieu était descendue sur terre. C'est un vav. Et ça, c'est un vav, c'est un clou. Alors le clou, c'est le Seigneur Jésus. Hein? Donc voilà, le nom de Jésus est là, le Vav. Et le Seigneur Jésus nous a envoyé son esprit. Donc vous avez de nouveau le Hé. Voilà le nom de Dieu, le vrai nom de Dieu, imprononçable. En dessous, je ne vais pas vous décrire tout, hein, mais ici en dessous, dans ce sens-là, on lit Yeshua. Yeshua, ça veut dire le sauveur. Le vrai nom de Jésus, c'est pas Jésus, c'est Yeshua. Et ça a été transformé par les Grecs, parce que les Grecs ne savaient pas dire « chu », ils ne savaient pas dire « ou », ils disaient « u », et puis c'est devenu Jésus. Et ici, « amashiach », la lettre que vous voyez ici, c'est l'article. Donc, on lit Yeshua, le Messie. Yeshua à Mashiach, en hébreu. Je vais vous faire ça avant de commencer, parce que tout est précis dans la Bible. Et je voudrais, ce matin, vous donner un enseignement qui n'est pas de moi. Moi, je ne fais que répéter. J'apprends des choses et je répète. Voilà, c'est ce que je fais. Et puis de toute façon, le Seigneur, il nous a demandé de faire ça, tout le monde doit faire ça. Il dit, prenez ma parole et allez la répandre. Hein. Donc, on comprend quelque chose et puis on va le dire. Et c'est ce que je fais, moi, dans mes enseignements. J'ai rarement découvert des choses tout seul. Hein. Mais bon, c'est comme ça, on apprend. Hein. Tous les profs font ça, ils apprennent de quelqu'un d'autre. Hein. Toujours. Hein. Alors, je voudrais vous montrer comment Dieu est précis. Et à travers cette étude, vous allez voir aussi que Dieu aime beaucoup les femmes. Vous allez comprendre pourquoi. Hein? Donc, cet enseignement, il a été donné par un juif messianique qui habite à Nantes et qui s'appelle Cohen. Alors, seulement, son nom a été transformé et c'est Cohen écrit à la mode bretonne. Mais bon, on ne peut pas se laisser tromper. Alors les Cohen, c'est quoi? C'était les sacrificateurs, hein, c'était les prêtres. C'est la tribu de Lévi. Voilà, hein, d'accord? Pour bien fixer les idées, alors ce frère, on l'a rencontré, bien sûr, et puis c'est vraiment un homme qui donne des enseignements d'une profondeur. Enfin, moi, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est vraiment un trésor de Dieu, hein, qui nous a montré, c'est... Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mon Dieu, que c'est beau ce truc-là. Alors, vous pourrez le répéter ailleurs si vous voulez. Voilà. On va passer maintenant à la deuxième page, si tu veux, Nicolas. Alors, je n'avais pas laissé ces pages-là. On va les passer, ces pages-là. Vas-y, passe. On y reviendra si on a du temps à la fin. Voilà. Voilà, c'est bien. On commence là. Alors, les fêtes de l'Éternel. Vous allez me dire, les fêtes de l'Éternel, c'était bon dans l'ancien temps. Mais vous allez découvrir que non. Tout au moins, je vais essayer de... Alors, la parole nous dit que le retour du Messie se fera dans la douleur. Il y aura comme les douleurs de l'enfantement. Hein? Alors, vous voyez trois versets ici qui nous le disent. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création, j'entends plus le micro, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ici, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement. Et puis, à la fin, dans l'Apocalypse, elle était enceinte, elle criait en travail dans les douleurs de l'enfantement. Donc il y a un enfantement à la fin des temps. Et cet enfantement, c'est pour faire venir le royaume de Jésus-Christ sur terre. Et il y a une évidence, vous savez, on sait tous qu'il y a un enfantement, mais il y a une évidence qui ne vient pas. C'est que, pour moi, ce n'était pas venu dans ma tête. S'il y a un enfantement, ça veut dire qu'il y a une grossesse. Il y a une grossesse avant, forcément. Ou alors, je ne sais pas, il est devenu comme ça d'un seul coup. Non. Et Dieu va prendre des images pour nous parler, et la grossesse de la femme est l'image d'une grossesse spirituelle. C'est-à-dire que les fêtes de l'Éternel, qui représentent le calendrier de Dieu pour arriver jusqu'à la fin des temps, eh bien, les fêtes de l'Éternel, c'est aussi le calendrier de la grossesse des femmes. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est bien pour montrer que c'est universel. Alors, donc, cette étude est de Yves et Nadia Cohen. Vous voyez comment son nom s'écrit, hein? Et on va passer à la page suivante. Alors, que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats, c'était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que ce que les Juifs faisaient dans l'Ancien Testament, toutes ces fêtes, eh bien, Paul nous dit, c'était l'ombre des choses à venir. Vous savez, l'ombre de quelque chose, vous pouvez marcher dessus, hein? C'est pas gênant. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de réel à côté. Et en fait, les sept fêtes de l'Éternel qu'on va voir se réalisent dans le temps, c'est-à-dire que la vraie fête se réalise dans le temps, et ce n'est plus l'ombre. Alors on va les voir. Regardez déjà ici le chiffre 7, c'est un chiffre parfait, on le sait. 6 jours de travail plus un jour de Shabbat. Ça, c'est ce que Dieu a instauré. Eh bien, regardez déjà le cycle de la femme. C'est 4 fois 7, 28 jours. C'est un cycle. Et c'est bâti sur le chiffre 7. Et 4, c'est le chiffre qui touche la terre. Les 4 coins cardinaux, les 4 fleuves qu'il y avait dans Éden, etc. Ça touche la terre. Donc c'est très charnel. Voilà, il y a 28 jours dans le cycle. Bien. Maintenant, la grossesse, eh ben, elle est réglée sur 40 fois 7. 280 jours. Et 40, c'est un temps d'épreuve. Ça veut dire que le Seigneur, il a dit, tu accoucheras avec douleur. Hein. C'est un temps d'épreuve. C'est pas si évident que ça, la grossesse. Il y a des grossesses qui se passent toutes seules, mais il y en a d'autres, non. Hein. Et voilà, le Seigneur a tout calculé comme ça. Alors, les semaines du cycle de la grossesse sont rythmées par les fêtes de l'Éternel. On va voir ça. Alors, on va d'abord faire, on va passer la page suivante, et on va d'abord regarder comment sont structurées les fêtes de l'Éternel. Attention, je parle bien des fêtes de l'Éternel, pas des fêtes juives. D'accord ? Alors, ces fêtes de l'Éternel sont décrites dans Lévitique 23. Hein ? Et on voit par exemple ce verset, Lévitique 23, 4, « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations. » Il ne s'agit pas des fêtes juives. Il y a des fêtes juives qui ont été rajoutées après. Hein? Mais je ne vais pas vous en parler. Sauf une. Sauf une à la fin. Alors, ces fêtes, elles étaient réparties dans le temps suivant le travail de la terre. Hein? C'était sur le travail de la terre. Et c'était en trois moments, vous voyez, il y a trois moments dans l'année, avec trois fêtes ici groupées, puis une fête toute seule, puis trois fêtes groupées. Et ça donnait l'occasion aux Juifs de monter trois fois à Jérusalem pour adorer Dieu. Et c'était les fêtes des montées, on montait à Jérusalem, et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus est né dans une crèche, parce que tous les autels étaient pleins, parce qu'il y avait des millions de gens, et c'était au moment d'une fête. Pourquoi a-t-il fallu que Judas conduise les soldats pour prendre Jésus ? Ben parce qu'il y avait 2 ou 3 millions de Juifs à Jérusalem, il y en avait partout, le mont des Oliviers devait être couvert de Juifs qui dormaient là, et pour trouver Jésus, c'était pas évident. Et donc, il a fallu que Judas fraye le chemin et dise, ben voilà, il est là. Vous voyez ? Donc, tout ça se passe pendant les fêtes. Oh, non, reviens en arrière. Alors, la première est la fête de Pâques. Alors, cette fête de Pâques, vous la connaissez, hein, on tue l'agneau. Mais je vous rappelle que cet agneau, on le prenait le 10 du mois et on le regardait pendant 4 jours. Pourquoi ? Eh bien, pendant 4 jours, on regardait s'il n'y avait pas un défaut. 4 jours. Et la semaine de Pâques où Jésus est mort, il est entré dans la ville de Jérusalem et il s'est promené 4 jours. Et à la fin, Pilate dit, je ne trouve pas un péché en lui. Vous voyez, l'agneau, pareil, il a été regardé pendant 4 jours. Tout est... Alors, vous avez les fêtes qui étaient l'ombre, et puis Jésus, lui, réalise la loi, et donc il réalise vraiment les fêtes. Alors, il y a la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices. On va les voir un petit peu plus en détail. Puis, plus tard, vous avez la fête des semaines, c'est-à-dire la fête de Pentecôte, qui s'appelle Shavuot. Shavuot, ça veut dire la fête des semaines. Et puis, ici, fête des trompettes, fête de Yom Kippour et fête des tabernacles. Alors, on va passer maintenant... Et on va voir la première fête de Pâques, la fête de Pâques. Alors, la fête de Pâques, elle se passe le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Si vous prenez maintenant le cycle de la femme, le 14e jour du cycle de la femme, toc, l'ovule est délivré. Pile, 14e jour du cycle. C'est Pâques. L'ovule est délivré. Formidable. Hein? Le peuple est délivré de l'Égypte, de ses dieux, de l'esclavage du péché. Et Jésus est mort, et Paul nous dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Là, ça n'est plus l'ombre, c'est la vraie Pâque. D'accord ? Et vous voyez qu'on débute là une espèce de calendrier qui va nous conduire jusqu'au retour du Seigneur. Ça commence là. Avant, c'était pour apprendre. Là, c'est la réalité. Jésus est mort le 14e jour du mois. L'ovule est délivré. Alors on continue. La fête suivante, la fête des pains sans levain. Le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel, et vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Qu'est-ce qui se passe pendant 7 jours après l'ovulation ? Après, pardon, la délivrance de l'ovule. Eh bien, l'ovule va se promener, on va dire, ici, dans la trompe, et ça prend 7 jours. La fête des pains sans levain, 7 jours. Et pendant 7 jours, pof, toc, 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 ça avance. Voilà. Pour arriver à la fête suivante. Vous voyez le programme de Dieu ? Tout est vraiment beaucoup d'intelligence. Alors, quand est-ce que Jésus a fait la fête des pains sans levain ? Ça, c'est important. Vous savez, quand il a été ressuscité, Marie est courue au tombeau. Et Jésus lui a dit, ne me touche pas. Pourquoi ? Parce qu'il était le grand sacrificateur, Cohen Gadol, le grand sacrificateur, il était purifié sans levain, la fête des pains sans levain, et il a dit, je ne suis pas encore allé voir mon Père. Donc, il est monté voir le Père, et là, dans le tabernacle céleste, celui qui avait servi de modèle à Moïse, il a présenté son sang au Père. Et il est ressorti du lieu très saint pour montrer qu'il était toujours vivant. Et là, il est redescendu sur terre et pendant 40 jours, il a prouvé qu'il était vivant. Vous savez, quand le grand sacrificateur rentrait une fois par an dans le lieu très saint, on lui mettait des clochettes. On lui mettait une corde aussi, parce que si jamais il mourait, il fallait le tirer. Hein ? Eh bien, Jésus a présenté son sang et il est sorti vivant. Il a apporté les preuves qu'il était vivant. D'accord ? L'histoire n'est pas finie là. Mais ici, on voit qu'il fait la fête des pains sans levain. Hein ? Il est vraiment sans péché. Il a jeté nos péchés. Ils sont partis. Alors, on va passer à la fête suivante, qui est la fête des prémices. Pendant le voyage de 7 jours, s'il y a un spermatozoïde qui est monté jusque-là, il va pouvoir rencontrer l'ovule et le féconder. Et les prémices de la vie vont apparaître. Alors, on voit ici dans l'utérus que si l'ovule est fécondé, eh bien, elle va s'accrocher à la paroi de l'utérus. Et ça, c'est le 8e jour. Alors, c'est formidable parce que à partir du 8e jour, l'anidation commence, l'ovule s'accroche à la paroi. Et il y a un réseau de nerfs et de sang qui apparaît. L'embryon mesure 0,2 mm. Ce sont les prémices. C'est la fête des prémices. Et on remarque que la fête des prémices avait toujours lieu pendant un des 7 jours de la fête des pains sans levain. C'est-à-dire que le spermatozoïde pouvait atteindre l'ovule pendant l'un des 7 jours, là, du petit voyage. Hein? Donc c'est formidable, et l'anidation commence au 8e. Mais alors, quand est-ce qu'il y a eu les prémices, les vraies prémices de Jésus? La fête, la vraie fête, pas l'ombre. Eh bien, vous avez une chose formidable, hein? Vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. C'est-à-dire que là, c'était le début des moissons, c'était vraiment, on allait voir ce qui avait poussé, et ce qui poussait en premier, c'était l'orge. Donc, ils allaient cueillir de l'orge, et ils présentaient devant Dieu, le sacrificateur présentait une gerbe, comme ça, d'orge. Eh bien, regardez, 1 Corinthiens 15, 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc la prémisse des prémices, c'est Christ qui est ressuscité des morts. Mais la gerbe, c'est quand la gerbe? Eh bien, vous vous rappelez que quand Jésus est ressuscité, des gens sont sortis des tombeaux. Et ils sont rentrés à Jérusalem. C'est la gerbe, la vraie. Vous voyez que le Seigneur réalise les fêtes. Il est venu faire la loi, l'accomplir. Donc il accomplit tout ce qui est écrit. Hein? Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Vous vous rendez compte de la trouille que ça a dû donner, hein? Alors on va passer, et après on arrive, il y a une étape, il y a 50 jours qui se passent, et on arrive à la fête de Shavuot, encore appelée Pentecôte par les chrétiens, mais Shavuot par les juifs. Alors c'est la fête où Dieu a donné les lois à Moïse. C'est exactement cette date-là. Et bien entendu, la vraie fête de Pentecôte, c'est quand Dieu donne le Saint-Esprit à l'Église et met les lois dans nos esprits et dans nos cœurs. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Hein? C'est ça qu'il fait. Alors, ce n'est qu'à partir du 50e jour de la grossesse qu'on distingue le corps qui se forme. Les mains et les pieds se dessinent, l'embryon est devenu un fœtus. Tiens, ça n'a pas été corrigé sur cette version-là. J'ai corrigé plusieurs versions, puis celle-là, c'est la mauvaise. Mais bon, tant pis, c'est un O qui est là. Tous les organes se forment, les yeux, les oreilles, les os, le cartilage, et c'est une nouvelle phase qui commence dans l'évolution du bébé. Quelque chose est donné au bébé pour son développement. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui fait l'enfant, hein? C'est lui qui le crée. Alors, à 50 jours, le fœtus mesure 28 mm. Bien entendu, on connaît ce qui s'est passé à Pentecôte. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et là, c'est la création du corps de Christ. Et quelque chose se passe. Ils ont la capacité maintenant de faire la volonté de Dieu. Avant, ils n'avaient pas. Regardez, Pierre, il a voulu faire des choses extraordinaires. Il ne s'est pas tâté, Pierre. Hein? Et c'est seulement quand il a reçu l'Esprit Saint qu'il a pu faire la volonté de Dieu, les œuvres préparées d'avance. Et bien maintenant, ce bébé a atteint la taille pour pouvoir commencer un processus beaucoup plus important et aller plus loin. Alors on continue. Et là, il y a un long temps qui se passe, parce qu'il faut que les cultures poussent, et on arrive aux fêtes d'automne. Moi, j'ai voulu vous donner cet enseignement maintenant, parce que nous sommes en plein dans les fêtes de l'automne, les fêtes juives. Hein, enfin, les fêtes de l'Éternel, excuse-moi. Mais c'est les fêtes, on est en plein dedans, ici. Ça va se terminer cette semaine. Hein, c'est sur plusieurs jours. Mais ça commence par la fête dite des trompettes. En fait, c'est une mauvaise traduction. C'est la fête du bruit, il faudrait dire. On fait du bruit. Voilà. Alors, en général, en Israël, on fait du bruit avec un chauffard. Donc, on prend un grand chauffard, là. Et puis, on sonne du chauffard. Et ça a été traduit après, fête des trompettes, mais c'est plutôt la fête des chauffards. Hein? Alors, je vous assure que quand le chauffard sonne, vous avez des frissons. Hein? Vous avez des frissons. Alors, jusqu'à présent, vous avez vu que toutes les fêtes, Jésus les a accomplies dans le programme. Hein? Il y a eu Pâques avec les trois fêtes, il les a accomplies. Il y a eu Pentecôte, elle a été accomplie. On arrive maintenant à la fête des trompettes. Et la fête des trompettes, c'est à la fin que ça se passe. Parce que ça se passe au septième mois, comme par hasard. Sept, encore une fois. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver. C'est pas fini. Donc, c'est dans le programme, ça va arriver. Alors, on aborde pour le bébé la 23e semaine. Dans la 22e semaine, bébé mesure 26 cm, il pèse 500 grammes, sa peau s'épaissit, les cils et les sourcils sont là, les poumons s'entraînent, il s'entraîne à respirer dans le liquide. Ouais. Et dans la 23e semaine, bébé atteint 28 cm, 600 grammes, il commence à fabriquer de l'ivoire pour faire ses dents. Il s'agite beaucoup, hein, voyez, 20 à 60 mouvements en une demi-heure, donc ça y va. Hein. Il attrape son pied, il serre ses poings, et très important, bébé entend maman et papa. Tous les bruits de l'environnement. Voyez la fête des trompettes, c'est faire du bruit, et bébé entend. Et nous aussi, on entend. On arrive à la fin des temps. Et on entend quoi? Et on entend qui? Regardez. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant le retour de l'Éternel, que le retour, le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Qu'est-ce qu'Élie? Qu'est-ce que l'esprit d'Élie va venir faire à la fin des temps, c'est-à-dire maintenant. Apocalypse 3. Le Seigneur dit aux églises, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. » C'est la fête où Dieu ouvre les oreilles. Et à la fin des temps, et nous en sommes tout proches, Dieu va ouvrir nos oreilles spirituelles pour que nous puissions nous examiner. Et cette fête des trompettes ouvre un temps de 10 jours pendant lequel on s'examine. Un temps de 10 jours, et vous verrez, les églises doivent rentrer bientôt, maintenant, dans un temps où elles doivent s'examiner, examiner leurs œuvres, examiner leur vie, se laver devant Dieu, être propre. Et ça, Dieu nous donne un certain temps. Il est écrit... Le jugement commence par la maison de Dieu. Donc c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et cette fête, eh bien, pour moi, elle a déjà commencé. Vous savez pourquoi? Parce que déjà rien que le retour d'Israël chez lui, c'est un coup de trompette fabuleux. Quand ils ont repris le mur des Lamentations, au pied du mur des Lamentations, ils ont pris le chauffard. Et ils ont tellement soufflé dans le chauffard que ça s'est entendu dans le monde entier. Dieu souffle dans les chauffards actuellement. Hier, on avait la chance d'écouter un frère messianique. Et il a été élevé mais vraiment pas du tout dans la foi, dans rien du tout. Il était athée, mais athée de chez athée. Et puis un jour, il a senti, je ne sais pas, c'est venu tout seul comme ça, le mot « chauffard » est venu en lui. Et puis, je ne vais pas vous raconter toute son histoire. D'abord, je ne la connais pas bien, mais... Il ne savait pas ce que c'était, ce mot « chauffard ». Alors, il est allé voir dans le dictionnaire. Et puis, il a vu que c'était une trompe comme ça. Alors, il a dit à sa femme, « Ah ben, il faut aller à Jérusalem chercher un chauffard. » Alors, ils sont allés à Jérusalem. Il a acheté un chauffard. Et puis... Dieu a commencé à lui parler. Alors, il est devenu pentecôtiste après. Il ne savait pas s'en servir du chauffard, mais il est devenu pentecôtiste. Et puis, il dit, seulement, là, il a rencontré l'amour avec des œillères. Bon, alors, il n'était pas bien. Puis un jour, il s'est dit, je ne sais pas, j'ai envie d'aller à la synagogue. Alors, il a été à la synagogue, et puis là, il ouvre la porte. Et il y a un monsieur au fond qui se lève et qui dit « Bonjour Jacques !» Ben il dit « Tu me connais ?» Ben il dit « Oui, on prie pour toi depuis des années. Ta mère était juive, ton père était juif, ta grand-mère était juive, et toi t'es juif. » « Hein ?» qu'il dit « Je suis juif. » Alors il dit « Je me suis mis à la synagogue, j'étais bien, puis après j'étais pas bien. » Alors je suis retourné à l'église, j'étais bien. Puis après, j'étais pas bien. Hein? Il était entre deux. Il savait plus. Et maintenant, il est juif messianique. Et il apporte la parole. C'est un homme extraordinaire. C'est lui qui a fait émettre édition. Donc, il édite des livres, etc. C'est un homme extraordinaire. Et Dieu... Sa mère était juive, mais elle ne le savait pas. Mais c'était dans ses gènes, parce que quand elle faisait un poulet, elle savonnait le ventre, l'intérieur du poulet avec un savon. Et ça, c'est typiquement juif, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de sang. Eh bien, elle faisait ça par instinct, comme génétique. Vous voyez ? Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il ramène à la racine son peuple. Et c'est extraordinaire. Alors moi j'aime beaucoup Lorenzo, le pasteur de l'église messianique, il dit, il vaut mieux être, comment il dit ça, branché sur la racine de l'olivier que sur le sapin de Noël. Greffé sur l'olivier que sur le sapin de Noël. Il a raison, parce que les fêtes chrétiennes, quand on les étudie, c'est pas très biblique. Mais bon, ici, voilà, hein, la fête des trompettes. Alors, Dieu sonne de la trompette, et il va sonner de plus en plus. La fête suivante, c'est la fête des expiations. Alors, dans la 24e semaine, les anticorps maternels passent par le placenta et se retrouvent dans le sang de bébé. C'est la protection contre les maladies. Tiens, il est protégé là. Bébé acquiert sa propre défense immunitaire. Son sang commence à le protéger. Jusque-là, l'oxygène du sang venait de maman. Maintenant, l'hémoglobine de bébé se transforme afin d'être prêt pour la naissance. Le sang, c'est la vie. Qu'est-ce qui se passait à Yom Kippour ? À Yom Kippour, il y a un rituel dans le temple très compliqué. Mais c'est le seul jour de l'année où le grand sacrificateur rentre dans le lieu très saint. Et il rentre avec, il va faire ça 4 fois, hein. Il ne rentre pas qu'une seule fois. C'est très compliqué comme chose. Il va changer de vêtements 8 ou 10 fois, il va rentrer 4 fois dans le lieu très saint, et il rentre avec le sang devant Dieu. Et quand il sort, il y a cette chose extraordinaire, il se tourne devant le peuple. Le peuple, ça fait maintenant 10 jours qu'il s'humilie, qu'il cherche la face de Dieu. Et pendant 10 jours, il se pose la question, est-ce que je suis inscrit dans le livre de vie? Est-ce que tout le monde est inscrit dans le livre de vie? Parce que maintenant, le grand sacrificateur sort du lieu très saint, il se met debout devant toute la population, et une fois par an, il prononce le nom imprononçable de Dieu. Quelque chose d'extraordinaire. Et s'il fait ça, alors ceux qui se sont humiliés devant Dieu sont sauvés pour 1 an. Mais le vrai Yom Kippour, écoutez, c'est important. Jésus est retourné dans le lieu très saint. Il s'est assis à la droite de Dieu dans le lieu très saint. Et il attend que ses ennemis deviennent son marchepied. Et à un moment donné, au vrai Yom Kippour, il va se lever avec ses habits de roi. Il va sortir du lieu très saint. Il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Et il revient comme roi et comme juge. Le Yom Kippour, c'est la fin du temps de la grâce. Parce que quand il va juger, il va dire à ceux qui sont à ma droite, « Venez, entrez dans le royaume qui a été préparé pour vous. Et ceux qui sont à ma gauche, maudits, allez dans le feu qui a été réservé pour Satan et ses anges. » Il dit ça. Donc, vous voyez qu'il y a à la fin des temps la fête des trompettes qui disent « Attention, encore 10 jours et ce sera fini. » Le temps de la grâce se termine. Le temps de la grâce se termine. Je ne sais pas pour combien de temps il y en a. Mais il y a des dates, vous savez, il y a des dates importantes. La date de, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en 2017-2018, il va se passer quelque chose. C'est les 70 ans d'Israël. Dieu est très précis. Si j'ai un petit peu de temps après, je vous montrerai une diapo dans laquelle on voit que Dieu, on sait calculer que les Juifs revenaient en Israël en 1948. Dieu est très précis. Donc, il ne faut pas prendre à la légère ces messages-là. Quel est l'état de nos vies? Est-ce que nous sommes tous inscrits dans le livre de vie? Est-ce que vous avez la conviction que vous êtes dans le livre de vie du Seigneur? Parce qu'à Yom Kippour, tout est décidé. Rappelez-vous que c'est Dieu qui a fermé la porte du bateau de Moïse, de Noé. C'est lui qui a fermé. Et c'est lui aussi qui fermera le temps de la grâce. Alors, c'est la fin du temps de la grâce, c'est-à-dire que le travail est terminé. Tout le travail est terminé. Son sang a été présenté dans le lieu très saint. Maintenant, il sort, prononce le nom de Dieu et apporte le jugement. Et les nations vont être jugées, notamment les nations vont être jugées en fonction de leur position par rapport à Israël. Alors on va continuer. Jésus revient comme roi des rois. Là, j'aimerais vous expliquer une chose. Parce qu'on dit Jésus est assis à la droite de Dieu. Mais regardez, Jésus est vu debout par Étienne. Pourquoi il est vu debout par Étienne? Alors, pour comprendre ça, il faut savoir que dans le temple, il n'y avait pas de chaise. Ça veut dire que les sacrificateurs, ils sacrifiaient toute la journée, tout le temps, tous les jours, parce qu'il fallait toujours sacrifier pour le péché. Et le fait de s'asseoir, ça veut dire c'est fini. On n'a plus besoin de sacrifier, le sacrifice perpétuel a été fait. Donc Jésus s'assied. Le travail est terminé. Mais là, bizarrement, Étienne, qui est en train de mourir, il voit les cieux ouverts et il voit Jésus debout à la droite. Alors pourquoi? Je vous donne une interprétation. Quand Étienne meurt, il a parlé avec les pharisiens juste avant. Il a essayé de persuader les pharisiens pour qu'ils comprennent ce que Jésus est venu faire. Et vous savez, si les Juifs avaient reconnu leur roi à ce moment-là, Jésus serait redescendu tout de suite et il aurait instauré son royaume. Mais le cœur des Juifs s'est endurci. À cause de ça, leurs yeux se sont trouvés aveuglés par rapport à Jésus. Et à un moment donné, l'apôtre Paul nous dit, Jésus s'est assis. Parce que là, il a compris que c'était fini pour eux. Et il a donné un délai de 40 ans. Vous savez, Jésus est mort à peu près dans les années 30. Et le temple a été détruit en 70, 40 ans. Il donne un délai. Si jamais, pendant ce délai, le peuple reconnaît son roi, il redescend tout de suite. Mais il n'a pas reconnu son roi. Mais c'est grâce à ça aussi que nous sommes sauvés. Vous voyez la dette que nous avons envers les Juifs. Moi, je pleure de la souffrance des Juifs. C'est grâce à eux, parce qu'ils ont été mis de côté, peut-être parce qu'ils se sont endurcis, c'est vrai. Mais n'empêche que sinon, nous ne serions pas sauvés. Et sans eux, nous n'aurions pas non plus la parole, les Écritures. Alors il faut les bénir. Ceux qui les béniront seront bénis. On va continuer. Ensuite, on arrive au septième mois, 15e jour du mois. Bébé pèse 1700 grammes, il mesure 40 cm. Et c'est là que les nerfs arrivent. Le cerveau a de plus en plus de circonvolutions, c'est extraordinaire. Et bébé est recouvert d'une couche de graisse qui se dissout dans le liquide amniotique et se renouvelle toutes les 3 heures. Les poumons sont formés, bébé muscle sa cage thoracique, il respire dans l'eau, hein, dans le liquide amniotique, c'est comme ça. Donc il s'entraîne, hein. C'est pour ça que quand il va naître, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Il devient viable, ayant la capacité de respirer, et il a dans le sang la capacité de transmettre l'oxygène. Et ça veut dire que ce bébé a 7 mois, il n'est pas encore né. Mais il est viable, et comme il est viable, c'est la fête. Et qu'est-ce qu'on fait à la fête des tabernacles? C'était mercredi, on y est allé, Véronique et moi. Eh bien, on mange des fruits, plein de fruits. C'est la fête où, enfin, avec le Seigneur, on récolte des fruits, les fruits qu'on a semés. On mange des fruits, c'est la fête. Et vous voyez, moi, il y a une chose qui m'étonne. C'est que les chrétiens ne se sont jamais intéressés à cette fête. Eh bien, mais vous voyez, les chrétiens, il ferait bien de s'y intéresser. Vous savez pourquoi? Parce que quand le millénium sera là, quand Jésus sera là, ce sera obligatoire tous les ans. L'Écriture dit dans Zacharie que tous ceux qui auront survécu aux événements qui vont arriver devront monter tous les ans à la fête des tabernacles, sinon ils ne seront pas bénis. Il n'y aura pas la pluie sur eux, etc. Alors vous voyez qu'il serait peut-être intéressant de s'intéresser à cette fête, parce que de toute façon, on va y passer. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Vous voyez, ce n'est pas la fête de Noël, hein. Alors, on continue. Toc. Et là, j'ajoute, enfin c'est pas moi, c'est le frère qui a créé ça, j'ajoute la fête de Hanouka. Hanouka, c'est la fête des Lumières. Cette fête, elle a été créée par les Juifs au temps des Maccabées. Parce que les Grecs avaient pris le temple, ils avaient détruit ce qui était à l'intérieur, etc. Et il y a eu une guerre. Les Maccabées, c'est une famille juive qui a fait la guerre aux Grecs. Et ils ont remporté cette guerre. Et quand ils ont remporté cette guerre, ils ont repris le temple. Et dans le temple, ils ont trouvé une fiole d'huile pour allumer la menorah, le chandelier à sept branches. Mais il y avait de l'huile pour un jour. Et pour faire de l'huile, il fallait monter dans le nord d'Israël, parce que les oliviers, c'était là-haut, et redescendre. Et pour ça, il fallait 8 jours. 4 allées, 4 retours. Alors, ils ont allumé le chandelier avec la fiole pour un jour, et par miracle, ça a brûlé 8 jours. Alors, ils ont dit, c'est la fête des Lumières. Cette fête des Lumières est encore appelée la fête de la dédicace. Et Jésus est monté au temple à la fête de la dédicace. Et c'est à ce moment-là que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». C'est pas n'importe quand. Alors, imaginez ça. Tout le monde avait mis devant sa porte des menorahs allumés. Et tout le monde, tout Jérusalem était illuminé par toutes ces lumières. Dans le temple, il y avait 4 immenses chandeliers, je crois qu'ils faisaient 26 mètres de haut, allumés. Et Jésus qui crie « Je suis la lumière du monde » pendant la fête de Hanouka. Et il dit « Cette lumière, tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Et cette fête de Hanouka, par rapport au début de l'année, c'est au 9e mois et 10 jours. La naissance de bébé. Il sort du ventre de maman et hop, il voit la lumière. Devenir enfant de Dieu. C'est extraordinaire. Vraiment, le Seigneur a tout bâti comme ça, d'une manière extraordinaire. Alors, bébé sort, je suis la lumière du monde. C'est, vous savez, cette fête de la dédicace, la fête de la lumière, les chrétiens l'ont transformée en fête de Noël. Vous savez, les guirlandes, les lumières, etc. Ça vient de là. Mais on leur a piqué, et puis on l'a mis à une autre date. Hanouka, c'est au mois de décembre. Et donc, voilà l'histoire de bébé. Alors, on peut passer à la suivante. Et bébé entre dans le royaume du Fils de Dieu. Voilà, bébé est arrivé. Et là, il est écrit Shalom. Shalom, c'est la paix complète. C'est tout ce qu'on peut espérer de beau. Shalom. Alors, je ne sais pas, j'ai mis encore un résumé, je crois, derrière. Voilà. Donc, c'est un petit tableau pour résumer ce qu'on a vu là. Et puis après, s'il reste du temps, je vous montrerai une page pour montrer que Dieu est précis. Alors, le 14e jour du mois, c'est la Pâque, c'est la délivrance de l'ovule. 14e jour du mois au 21e jour, c'est le pain sans levain. C'est le voyage de l'ovule vers l'utérus. Du 14e au 21e, c'est les prémices, fécondation, nouvelle naissance. 50 jours plus tard, la Pentecôte, l'embryon devient fœtus. C'est la révélation et la puissance de Dieu qui vient. Ensuite, on passe au premier jour du 7e mois, c'est la fête des trompettes. Attention, Dieu revient, repentez-vous. Est-ce que vous êtes bien dans le livre de vie? Le fœtus entend, c'est l'appel à la repentance. Puis 10 jours plus tard, c'est la fête de Yom Kippour. Là, c'est le sang qui est bon pour assurer la vie. Inscription dans le livre de vie, c'est définitif, c'est la fermeture du temps de la grâce. Au 15e jour du 7e mois, fête des tabernacles, on fête les fruits de tout ce qui a poussé. On les mange. Il est viable, le bébé. Mais il va naître qu'à la fête des Lumières. Vous voyez, Dieu a tout créé pour quelque chose de beau. Alors, je voudrais... on va repasser tout au début, si tu veux bien. Maintenant, tu passes à la suivante. Et puis encore la suivante. Voilà, ici, je voulais vous montrer ça. Il y a plusieurs pages, mais je ne veux pas non plus prendre trop de temps. Lors de la dispersion du peuple, vous savez que Dieu a demandé à Ézéchiel un drôle de truc. Il a dit, tu vas te coucher sur le côté. Hein? Alors, couche-toi sur le côté gauche et mets-y l'iniquité de la maison d'Israël et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un jour égal à celui des années, leur iniquité 390 jours. Donc 390 ans d'iniquité d'Israël. Alors il se met sur le côté gauche, imaginez un peu le bazar que Dieu lui demande. Puis après il dit, tu te mettras sur le côté droit. Ouf, je peux changer de côté. Et là il dit, tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Quand même, Dieu a demandé des drôles de trucs à ses prophètes. Hein. Alors, Dieu compte donc 390 plus 40 ans d'iniquité. C'est-à-dire 430 ans. Vous êtes d'accord?
Oui.
Maintenant, le peuple hébreu a été puni pendant 70 ans de déportation. Je vous rappelle en passant que ces 70 ans ne sont pas sortis du chapeau comme ça. Ça correspond exactement à 70 ans de Shabbat de la terre qui n'ont pas été exercés, respectés. Donc, il reste 360 ans d'iniquité. Par ailleurs, lorsque les Juifs sont rentrés en 535 avant Jésus-Christ, ils n'ont pas tellement changé de comportement par rapport à Dieu. Malheureusement. Et Dieu dit, si malgré cela vous ne m'écoutez pas, je vous châtierai 7 fois plus. Alors, regardez. 360 ans multiplié par 7, ça fait 2520 ans. C'est long, hein? Alors, on compte en années prophétiques, comme les années qui sont dans l'Apocalypse. Ce sont des années de 360 jours. Ça fait donc 907 200 jours. Si on ramène ça en année de 365 jours, comme nous on compte, ça fait 2483 ans. Et si on compte à partir de l'année 535 avant Jésus-Christ, eh bien, on arrive à 1948. C'est la création de l'État d'Israël. Dieu a compté. Vous voyez, c'est extraordinaire. Dieu est extrêmement précis. Est-ce que tu peux passer encore une page? Les fils d'Aman. Vous savez, dans l'histoire d'Esther, les 10 fils d'Aman, ils ont été pendus. Lors du procès de Nuremberg, il y avait 11 chefs nazis qui étaient condamnés à mort. Il y en a un qui s'est suicidé dans sa cellule. Il en restait 10. Les 10 ont été pendus le 16 octobre 46, le septième jour de Choukot, qui s'appelle Hoshana Rabba, jour du jugement. C'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Dieu est extrêmement précis. Passe au suivant si tu veux bien. La mort de Saddam Hussein. Saddam Hussein, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait reconstruire Babylone parce qu'il se prenait pour le roi de Babylone et il voulait détruire Israël. C'était son objectif. Or, dans l'Ancien Testament, du temps d'Ézéchiel, Jérusalem a été encerclée par les troupes de Babylone. Et Dieu a dit, la neuvième année, le dixième jour du dixième mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, mets par écrit la date de ce jour. Ce jour-ci, le roi de Babylone s'approche de Jérusalem ce jour même. Alors, les Juifs se rappellent de ce dixième jour du mois de Tébet. Ils s'en rappellent et tous les ans, ils font un jeûne pour ça. Eh bien, Saddam Hussein, qui se prenait pour le roi de Babylone, a été pendu le 31 janvier 2006, pile poil le 10 du mois de Tébet. C'est pas du hasard. Dieu est précis. Il conserve le souvenir de tout. Dieu contrôle tout. Encore un. Ah, il y en avait. C'était avant. Oui, ça c'est les 70 ans de déportation. C'est tout. Ben voilà, que le Seigneur vous bénisse.